إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lors de l'assise précédente, nous avons vu l'explication d'Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala dit dans Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, I'lam, sache. Ceci est le début de l'épître de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ainsi, il a débuté cet épître avec cette préface, comme c'est une habitude courante chez les savants de débuter avec une préface résumant le sujet principal évoqué dans leur ouvrage. Et l'utilité d'une telle introduction est de permettre de comprendre le thème de base évoqué dans l'épître et de clarifier certains sujets importants méritant d'être sus au début de l'ouvrage. Et ce que nous avons entre les mains actuellement est la première des trois introductions qui se trouvent dans ce livre. Donc Cheikh rahimahullah ta'ala a débuté par celle-ci avant de traiter le sujet initial sur lequel il parle dans cet épître, qui est le sujet des trois fondements. Lorsqu'il dit « sache », ceci est l'impératif du verbe « savoir » « al-amr »« ya'lam ». Et comme le disent les savants, l'utilité d'employer l'impératif est d'avertir celui qui écoute, d'éveiller son attention, que le sujet qui va être mentionné est un sujet important et méritant d'être étudié, et que celui-ci fait partie des points essentiels pour lui. Et lorsque Shir, rahimahullah ta'ala, dit « i'lam, sache », c'est un discours qui est adressé aux étudiants en sciences, dont le sens est « apprends » et « fais des efforts dans la science ». De même que ce discours s'adresse au grand public, il convient donc à tout le monde de savoir. Et « al-ilm », le savoir, est le fait de concevoir la réalité d'une chose avec certitude. Certains savants l'ont décomposé en certaines catégories, mais de manière générale, la définition que l'on donne à la science est le fait de concevoir la réalité d'une chose avec certitude. Et en outre, le savoir est de deux sortes. Soit ce savoir peut être basique, qui est celui qui est nécessairement connu sans besoin de théorie ou d'argumentation, comme le fait par exemple de savoir que le feu est chaud. Ça, c'est une chose que tout le monde sait. Ça ne nécessite pas d'avoir un verset du Coran ou un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir que le feu est chaud. C'est ce qu'on appellera donc une science basique. Et il y a une science théorique qui est celle qui requiert des investigations et des preuves, comme par exemple le fait de savoir que l'intention est obligatoire avant les ablutions. Ça nécessite un texte que l'on est obligé de rechercher pour savoir maintenant que effectivement l'intention est une obligation pour les ablutions. Ensuite, Cheikh rahimahullah ta'ala a dit rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Ici, le Cheikh invoque Allah de faire miséricorde en faveur de celui qui étudie ou lit cet épître, c'est-à-dire qu'Allah répande sur toi sa miséricorde de façon à ce que tu puisses atteindre ce que tu recherches et être sauvé de ce que tu crains. Ainsi, le sens complet est qu'Allah pardonne tes péchés antérieurs et qu'il t'aide et te protège dans l'avenir. C'est la définition du terme Ar-Rahma, la miséricorde, lorsqu'il est utilisé seul. Cependant, si le terme Maghfira, le pardon, est mentionné conjointement, alors le terme Maghfira, le pardon, signifie le pardon des péchés antérieurs, alors que le terme Rahma désigne l'obtention du bien et la préservation des péchés dans le futur. Et cette invocation du Shir, rahimahullah ta'ala, montre l'attention qu'il porte à ses étudiants et lecteurs et indique qu'il recherche et désire le bien pour eux. Car celui à qui Allah fait miséricorde aura réussi, il sera heureux et aura obtenu le bien de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et ici, on note justement un comportement que l'enseignant doit avoir avec ses élèves qui est justement de se comporter ainsi, d'être soucieux et faire des invocations pour ses élèves. Ensuite, le shir dit أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses, c'est-à-dire quatre choses que nous devons obligatoirement connaître. Le shir, rahimahullah ta'ala, veut que nous accordions une grande attention à ces quatre choses que nous devons impérativement apprendre en raison de leur caractère immensément bénéfique. Et ces choses que l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne, elles englobent toute la religion et sont liées aux actes. Quatre choses des actes dans la religion. Ensuite, il dit « Al-mas'alatul oula al-ilm » Donc la première de ces quatre choses est la science. Dans la science, il y a ce qui doit être appris par chacun. C'est la science que l'on appellera donc une obligation individuelle, fardu ayn. Mais il y a aussi de la science ce qui n'est pas obligatoire d'être appris par chacun, à partir du moment où certains de la communauté se chargent de l'étudier. C'est ce que l'on appelle une obligation collective, un fard kifaya. Et le sens de la science, qui, de ce que l'on connaît donc, est l'opposé de l'ignorance, c'est un sens qui est connu par tous. Tout le monde sait que la science, c'est l'opposé de l'ignorance. Mais la science que le shir, rahimahullah ta'ala, désire et a expliqué ici, est une science particulière, qui est la connaissance d'Allah Azza wa Jal avec le cœur, d'une façon qui engendre nécessairement l'acceptation de ce qu'il a légiféré, qui nécessite l'obéissance d'Allah, qui nécessite la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'application de sa législation avec laquelle est venu son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit donc que al-ilm huwa ma'rifatullah, que la science est la connaissance d'Allah. La première science est la connaissance d'Allah et de croire en Allah. Et le fait de croire en Allah exige de croire en sa présence. An Allah subhanahu wa ta'ala mawjoud, de croire en sa seigneurie, qui est donc at-tawhid ar-rububiyya, de croire en sa divinité, qui est at-tawhid al-uluhiyya, et de croire en ses noms et attributs parfaits, at-tawhid al-asma wa sifat. Et le serviteur peut connaître son Seigneur aussi en observant ses signes religieux, se trouvant dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et en considérant aussi les signes universels d'Allah subhanahu wa ta'ala que sont ses créatures. Il y a plusieurs façons donc de connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, parmi eux les signes. Et les signes, ils se divisent en deux catégories. Nous avons les signes religieux, l'ayat shar'iyya, qui se trouvent dans les textes du Coran et de la sunna authentique, et nous avons aussi les signes universels, al-ayatul kawniyya, que l'on peut observer à travers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, chaque fois que l'être humain examine ces signes, sa connaissance de son créateur et de sa divinité augmente. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Donc ici, nous voyons effectivement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans son livre qu'il y a sur terre des signes, des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Non. Ensuite, le shir, donc, rahimahullah ta'ala, nous dit que la science, c'est aussi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi donc la connaissance de son messager, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, implique nécessairement de croire qu'il est un messager d'Allah. De même que d'accepter la droiture et la religion de vérité avec laquelle il est venu. De croire en la véracité de ses propos. D'obéir à ses ordres. De s'éloigner de ce dont il nous a mis en garde et de ce qu'il a interdit. De juger conformément à la législation avec laquelle il est venu. Et d'être satisfait de ses jugements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations et aboutissements. Ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit, quant à ce verset: sais-tu quelle est cette épreuve? L'épreuve qui est mentionnée dans le verset. Il a répondu: cette épreuve est le shirk, le polythéisme. Car si une personne rejette une partie des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une forme d'égarement risque d'apparaître dans son cœur, ce qui causera sa perte. Fin de citation. Non. Ensuite, le shir nous dit que al-ilm huwa ma'rifatu din al-islam bil adilla, que la science c'est aussi la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Lorsqu'il dit donc la connaissance de la religion de l'islam, le sens général du mot islam c'est l'adoration d'Allah selon la façon qu'il a légiféré depuis qu'il a envoyé ses messagers, salawatullahi wa salamuhu alayhim, jusqu'à l'avènement de l'heure. C'est-à-dire, il a qiyam sa'a. C'est ce qu'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets, qui montrent que toutes les législations prescrites précédemment étaient aussi l'islam, la soumission à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Ibrahim alayhi salam, donc Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dans le verset, il nous dit donc notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Donc on voit bien qu'ici, lorsqu'il a dit waj'alna muslimayn, ici donc il a bien mentionné le nom de muslim, celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait référence donc à l'islam. Quant au sens particulier du mot islam, puisque nous avons vu donc le sens général qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le sens particulier du mot islam, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait référence au message apporté par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé toutes les religions antérieures, que ce soit le christianisme ou le judaïsme. Par conséquent, les adeptes des messagers en leur temps étaient musulmans. Les juifs du temps de Moussa alayhi salam étaient musulmans. Et les chrétiens, à l'époque de Isa alayhi salam, étaient musulmans. Mais depuis l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'ont pas cru en lui ne sont pas musulmans. De plus, l'islam est la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la seule qui soit bénéfique pour l'individu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna ad-dina 'indallahi al-islam ». Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. De même qu'il nous dit « Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina » فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, donc, dans le verset, il nous dit « J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Non. Ensuite, lorsqu'il nous dit « Bil adillah » que la connaissance, du moins la science, c'est la connaissance de l'islam avec l'épreuve. Bil adillah, avec l'épreuve. Ici, le mot dalil, du moins adillah, c'est le pluriel du mot dalil en langue arabe. Le mot dalil fait référence ou du moins est traduit par la preuve, qui est ce qui désigne ce qui mène vers l'objet de la recherche. L'épreuve, dans la législation religieuse, c'est-à-dire en islam, elles sont de deux catégories. Elles peuvent être textuelles comme elles peuvent être rationnelles. L'épreuve que l'on appelle textuelle est tout ce qui est établi par la révélation, c'est-à-dire un nas, à savoir le Coran et la Sunna authentique, ou encore le consensus. Alors que la preuve intellectuelle, quant à elle, est celle qui est établie par le biais de l'observation et de l'analyse. Allah subhanahu wa ta'ala a fréquemment mentionné ce type de preuve dans son livre. Et nombreux sont les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa min ayatina » parmi nos signes, il y a, et ensuite il nous mentionne « Al-layla wa al-nahar wa al-shamsa wa al-qamar » et autres, donc, signes d'argumentation. Taïeb, qui montre donc que ce sont des preuves intellectuelles. C'est de cette façon que les preuves rationnelles sont citées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les preuves rationnelles, elles s'établissent en examinant, en considérant les signes clairs avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Le plus grand de ces signes est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. De même que les miracles qui se sont réalisés par ses mains, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les informations touchant à l'inconnaissable, à ilm al-raïb, dont il nous a fait part. Ces choses ne peuvent être connues qu'à travers la révélation, et elles se sont effectivement réalisées, tels qu'il les avait annoncés. Nous avons énormément de signes sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, qui n'étaient pas présents à son époque, il faisait partie donc de la science de l'inconnu, et plusieurs années après, ils se sont effectivement concrétisés de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en avait informés à son époque. Et le Shir ici, en nous disant « avec l'épreuve », il attire notre attention sur une règle importante que les savants ont déduit du Coran et de la Sunna authentique, qui est, c'est une règle que l'on mentionne, la base dans l'adoration et l'interdiction, jusqu'à ce qu'un texte l'autorise. Donc, al-asl fil ibada at-tahrim illa bin-nas. La base dans l'adoration et l'interdiction, jusqu'à ce qu'un texte l'autorise. Lorsque nous allons vouloir accomplir une adoration, il nous est interdit d'accomplir cette adoration tant que nous ne sommes pas sûrs qu'il y a un texte qui la légifère. C'est pour ça que de nombreux compagnons et salafs ont dit des paroles dans le sens que il était préférable de se limiter dans la sunna que d'être laxiste dans l'innovation. Ça veut dire qu'il est préférable des fois de ne pas accomplir une sunna par manque de science plutôt que de penser que ça peut être une sunna et du moins d'être laxiste sans même avoir vu le texte et au final accomplir une innovation. Taïeb. Donc la religion, l'adoration d'Allah, ne peut être accomplie que si un texte du Coran, de la sunna authentique ou le consensus, la légifère. C'est pour cela d'ailleurs que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait après ses cours, « Toutes paroles peuvent être acceptées ou rejetées, si ce n'est les propos de celui qui est dans cette tombe, et il montrait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ici, il faisait référence justement que, en dehors des prophètes, les hommes ne sont pas exempts d'erreurs. De ce fait, toutes les paroles qui peuvent être prononcées, peu importe le rang ou le statut de ces personnes, en dehors des prophètes, elles peuvent être acceptées ou rejetées. On peut accepter les paroles d'un shir comme elles peuvent être rejetées si maintenant celui-ci se trompe. Hormis les propos donc de celui qui est dans cette tombe, et comme je vous ai dit, il montrait donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas le droit de douter de leur véracité et il nous est obligatoire de les accepter. À partir du moment où ils remplissent les conditions mentionnées par les savants du hadith dans cette science, qui est donc justement les conditions qu'ils ont mentionnées, par exemple pour la chaîne de transmission. Avant d'accepter les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons obligatoirement confirmer que ce sont ces propos, en vérifiant l'authenticité de la chaîne de transmission et qu'il n'y ait pas donc des défauts rendant ce hadith faible. À partir du moment où ces conditions sont requises, il est obligatoire alors de les accepter et de croire en la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces informations. Non. Et c'est pour cela donc que les gens de la sunna et du consensus, les salafis, pèsent les paroles des gens et leurs actes avec ces deux balances, qui sont les textes du Coran et la sunna authentique et le consensus. Et ici donc, j'attire votre attention sur une erreur que malheureusement nous entendons, qui des fois, lorsque l'on va questionner certains frères sur un acte, on va leur demander « Pourquoi as-tu accompli cet acte ?» Il va dire par exemple « J'ai vu tel shir le faire. » Et ça, c'est une erreur. Puisque nous, les gens de la sunna et du consensus, nous pesons les paroles et les actes des gens avec ces deux balances. Donc il n'est pas conforme de s'appuyer sur la pratique d'une personne, peu importe son statut, et de dire « Je l'ai vu faire. » Non, impérativement, nous devons regarder si cette adoration est légiférée par un texte du Coran et de la sunna authentique et le consensus. Et à partir de ce moment-là, effectivement, nous mettons en application cette adoration. Mais le fait de suivre aveuglément une personne dans une adoration simplement par rapport à son statut, ceci est interdit. Nous n'avons pas le droit de s'appuyer sur cette façon pour pouvoir légiférer une adoration. Donc il faut faire attention à ce genre de choses, même si nous avons une bonne suspicion de nos savants et nous respectons leur rang, mais ceci n'est pas une attitude à avoir en tant que personne des gens de la Sunna et du consensus. Les gens de la Sunna et du consensus, ils observent les preuves et c'est avec ceci qu'ils acceptent ou refusent les paroles et les actes des gens. Avec le Coran, la Sunna authentique et le consensus. Car il se peut, probablement, comme ça a été le cas comme on peut le voir donc dans les livres de fiqh, que certains savants, des fois, se sont appuyés sur un hadith faible. Dans ce cas, il n'est pas toléré de pratiquer cette adoration, puisqu'elle est basée sur une parole qui ne peut être affiliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fait, elle ne fait pas partie de la législation et on ne peut pas en déduire une adoration. Voilà pourquoi les gens de la sunna et du consensus pèsent les paroles et les actes des gens avec ces deux balances qui sont le Coran et la Sunna authentique ainsi que le consensus. Et ces trois connaissances donc ici qui sont les trois fondements, c'est-à-dire le fait de connaître Allah, la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam, sont les trois fondements que le Shir rahimahullah ta'ala va développer en détail à travers cet épître. Ici, il nous les a mentionnés donc de manière restreinte, simplement pour pouvoir connaître quel est le sujet. Comme je vous ai dit, c'est l'utilité d'une introduction. Et ensuite, le Shir, à travers cet épître, il va développer en détail ces trois fondements que l'on va voir. Donc, quiconque connaît ces trois choses, il est vrai de dire qu'il connaît la science religieuse par rapport au fait que maintenant, la définition de la science religieuse est al-ilm huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. La personne qui connaît donc ces trois choses, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît son messager sallallahu alayhi wa sallam et qui connaît la religion de l'islam avec ses preuves, on peut dire qu'elle connaît la science religieuse. Ensuite, le shir il nous dit المسألة الثانية العمل به. Donc, il nous dit que le deuxième sujet est la mise en pratique, c'est-à-dire mettre en pratique les conséquences des connaissances précédemment citées. Il faut mettre en pratique la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de la religion de l'islam qui ont été précédemment citées, à savoir croire en Allah. Ça implique lui obéir en se conformant à ses ordres et en évitant ses interdits. Que ce soit dans les adorations dont l'interdit se limite à un individu ou bien s'étend à la communauté. On compte parmi les adorations d'intérêt individuel, par exemple, la prière. As-salah, c'est un fard d'ayn. C'est une adoration donc obligatoirement, qui s'applique obligatoirement à tout individu. Ainsi que le jeûne, le pèlerinage et encore bien d'autres. Tandis que les adorations d'intérêt collectif, donc celles que l'on appelle fard kifai, elles correspondent par exemple à l'injonction du bien et la réprobation du mal. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ce n'est pas toute personne qui doit se charger d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Si une partie de la communauté s'en charge, alors ça suffit pour que les autres ne soient pas il ne leur soit pas demandé de s'en charger. Et en réalité, la pratique, al-amal, c'est le fruit et l'objectif de l'étude de la science. Lorsque l'on étudie la science, c'est pourquoi ? C'est uniquement pour la mettre en pratique. D'ailleurs, de nombreux érudits ont écrit à ce sujet, tel qu'Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, comme dans son livre « Iqtida al-ilm al-amal ». Ainsi que Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan أخذ العلم وفضله وما ينبغي في روايته وعمله وحمله عفوا. نعم. Et encore bien d'autres. Il y a de nombreux érudits anciens qui ont écrit à ce sujet. Le sujet de devoir mettre en pratique la science et les bienfaits justement de mettre en pratique la science que l'on connaît. L'objectif de l'étude n'est pas simplement de collecter des connaissances et de les mémoriser. Ce que l'on entend par apprendre la science religieuse, c'est de concrétiser la foi et les actes pieux. Ainsi, la science sans œuvre n'est qu'un préjudice et un argument contre celui qui la connaît. Pour cela, nombreux savants ont expliqué... Le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Fatiha, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, donc non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Nombreux savants ont expliqué ce verset en disant que quiconque parmi les musulmans agisse sans science s'apparente aux chrétiens, et quiconque parmi les musulmans apprend sans agir s'apparente aux juifs. Et comme le dit le vieux proverbe arabe, et le savant qui ne met pas en pratique sa science sera châtié avant même les adorateurs d'idoles. Comme dans le poème qui est connu, donc. Lorsque ils disent وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَ مُعَدَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ, et le savant qui ne met pas en pratique sa science sera châtié avant même les adorateurs d'idoles. Donc si nous connaissons Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons obligatoirement l'adorer seul, sans aucun associé. Et ceci est la mise en pratique de la science. De même que si nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incombe de le suivre. Et si nous connaissons la religion de l'islam, alors nous devons impérativement mettre en pratique ces règles. Naam. Ensuite, le shir il nous dit al-mas'alatu thalitha ad-da'watu ilayh. Il nous dit donc que la troisième chose est d'y inviter les gens. C'est-à-dire d'inviter les gens à se soumettre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon les approches qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous mentionne dans son livre. Comme lorsqu'il dit ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن, donc par la sagesse et la bonne exhortation appelle les gens au sentier de ton seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, ainsi que lorsqu'il dit ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم, donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et cette invitation à l'islam doit être faite avec la connaissance de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'elle se propage avec science et clairvoyance. Car Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dit voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basant sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Donc la science doit exister au niveau du message à transmettre, c'est-à-dire que le prédicateur doit connaître le statut religieux des choses, la façon de prêcher, de même que la situation, l'état de son interlocuteur. De même, que le prédicateur doit avoir de nombreux comportements. Parmi les plus importants, le fait de s'efforcer d'être une cause de guider pour les gens et leur transmettre la religion d'Allah. De même que, à travers son prêche, à travers donc son message, il doit faire preuve de douceur ainsi que de sagesse. Il doit adopter la bonne exhortation. Il doit discuter de la meilleure façon. Il doit parler qu'avec science. Il est impossible, par exemple, surtout pour un prédicateur ou un étudiant en sciences, de même que il lui interdit donc de précéder les savants. Il doit obligatoirement s'appuyer sur les propos des savants. Il n'est pas toléré que celui-ci se prononce sur des sujets sur lesquels les savants se sont tus. Aussi, le prédicateur doit employer toutes les nombreuses méthodes de prédication qui s'offrent à lui, comme le fait d'inviter les gens à l'islam par les sermons, les conférences, la rédaction d'articles, les séminaires scientifiques, la publication de livres et la propagation, et de même que la propagation de l'islam par le biais de l'édition. Et ça, en s'appuyant sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il a utilisé tous les moyens disponibles à son époque pour faire le prêche. Comme lorsqu'il envoyait des lettres aux rois et dirigeants d'État. De ça, on en retire justement le fait d'utiliser tous les moyens qui se présentent à nous, que ce soit avec l'Internet, que ce soit à travers les écrits, que ce soit à travers les audios, que ce soit à travers des prêches, que ce soit dans des assises restreintes, que ce soit dans des assises générales. En tout cas, le prédicateur doit s'efforcer et doit employer toutes ces nombreuses méthodes de prédication qui s'offrent à lui. Et ici, j'attire une nouvelle fois votre attention et insiste sur un sujet très important, vu que l'on parle des prédicateurs, qui est l'apprentissage de la langue arabe. Il est impératif, nous, en tant que gens de la sunna et du consensus, que nous fournissions des efforts considérables dans l'apprentissage de la langue arabe. C'est important que nous apprenions la langue arabe, parce que c'est la clé qui va nous permettre de comprendre notre religion et va nous permettre de l'apprendre directement des savants, de grandes connaissances et enracinés, qui ont passé leur vie dans la recherche de la science, dans sa propagation, et qui ont de l'expérience et peuvent nous donner dans une seule assise ce que nous ne pouvons pas atteindre après de nombreuses années. Des fois, il y a des étudiants en sciences, ils vont passer de nombreuses années pour rechercher dans un sujet, alors que le shir, en simplement quelques mots, il va lui donner le résultat de ceci, de cette recherche. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement fournir des efforts dans la langue arabe pour pouvoir directement apprendre notre religion de ces nobles savants et surtout le public francophone qu'il arrête de se faire duper par le message contradictoire de nombreuses personnes qui se disent traducteurs ou prédicateurs ou étudiant en sciences, sans même avoir étudié auprès des savants, sans même détenir de recommandations et accréditations. Ces gens qui traduisent et qui parlent ouvertement et traitent tous les sujets sur les réseaux sociaux et autres, ces gens qui font croire au public francophone qu'il est possible d'étudier des livres scientifiques et complexes en langue française, c'est une illusion. Il est impossible d'étudier en langue française des livres scientifiques et complexes. Il faut impérativement avoir la langue arabe pour pouvoir faire ses études. Par Allah, même un arabisant, il est difficile pour lui d'étudier ses livres alors qu'il maîtrise la langue arabe, qu'il a les explications des savants entre ses mains et pour certains, ils ont même un contact avec les savants. Et malgré ça, ils ont des difficultés à comprendre les termes minutieux et les explications détaillées des savants pour ces livres. Alors que dire en langue française ? C'est une illusion. Il faut arrêter de croire qu'on peut étudier Kitab Tawhid, que l'on peut étudier les livres de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim. Ceci est une illusion. Pour pouvoir étudier et comprendre ces livres correctement, et devenir un véritable étudiant en sciences, il est impératif de passer par l'apprentissage de la langue arabe et d'étudier ses livres avec des gens de science. Qu'Allah y récompense les prédicateurs pour le travail qu'ils fournissent dans la prêche francophone. Mais, par souci de conscience et par justice, il est impératif de dire la vérité que ceci n'est pas possible. On ne peut pas leurrer les gens. Et ça, ça fait partie du bon conseil que l'on se doit de donner à nos frères. On ne peut pas leur faire croire qu'ils vont, en français, étudier Al-Bukhari ou encore d'autres livres. C'est faux. De même qu'on ne peut pas leur faire croire qu'ils vont devenir des étudiants simplement en assistant ou en écoutant des traductions. C'est impossible. C'est pour ça qu'il est impératif de ne pas, nous en tant que traducteurs, prédicateurs ou étudiants en sciences, traduire les ouvrages qui ne sont pas à proximité de la compréhension de notre public. Ça, c'est un devoir. Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, il a été rapporté de lui. Hadith innas bima yafhamun. Aturiduna an yukaddibullaha wa rasoula. Il nous a dit donc, parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Voulez-vous qu'ils démentent Allah et son messager? Il n'est pas donc permis de leurrer les gens de cette façon ou encore de comment dire, de les encourager. Parce que, comme je vous ai dit, ceci est un message contradictoire. Le fait de dire retournez au grand savant et ensuite que nous traduisons tous les livres en langue française, ceci est une contradiction. Il est obligatoire que justement nous traduisions les livres nécessaires au public francophone et ensuite de leur demander de fournir des efforts dans la langue arabe pour apprendre leur religion des savants. Car, premièrement, nous n'avons pas le statut pour leur enseigner ces livres. Deuxièmement, il est impossible d'étudier ces livres en langue française. Et troisièmement, c'est le rôle du prédicateur, donc, de, comment dire, de savoir orienter les gens de cette manière et de leur conseiller le bien. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.